Parlons transition. Une heure d'échange sur les défis écologiques. Avec le soutien de la région Normandie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Transition. Chaque mois, on se retrouve pour échanger pendant une heure avec des actrices de la transition écologique. Et pour ce mois de juin et dernier épisode de la saison, nous allons parler du tourisme éco-responsable. Et je co-anime à nouveau cette émission avec Justine, bénévole à la radio. Salut.
Salut à toi, bonjour à toutes et à tous. Le secteur du tourisme est largement impliqué dans le changement climatique puisqu'il engendre 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le transport, l'alimentation, le shopping étant les principaux émetteurs. Et c'est sans surprise, avec ses 2,5 millions de visiteurs annuels, le Mont-Saint-Michel Fierté Normande se hisse dans le top 10 des sites les plus visités en France. En 2025, il enregistre près de 2,8 millions de visiteurs, soit une hausse de 3,1% par rapport à 2024.
Le Mont-Saint-Michel est sans nul doute concerné par le tourisme de masse. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées. Cette pression touristique croissante pèse lourdement sur les écosystèmes, accentuant la pollution et accélérant l'épuisement des ressources naturelles. Mais comment faire pour allier tourisme et préservation de l'environnement? Qu'est-ce que le tourisme éco-responsable? Et une activité touristique intense est-elle compatible avec une biodiversité préservée?
Pour en parler, nous recevons Hervé Biergeon, directeur du développement de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, et Kevin Sionneau, guide de la baie du Mont-Saint-Michel, avec les deux pieds dans la tangue. Il est aussi syndiqué au syndicat des guides de la baie du Mont-Saint-Michel. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, Hervé, pouvez-vous nous dire où nous sommes?
Alors là, nous sommes au centre d'information touristique, qui est un bâtiment d'accueil qui a été et de service aux visiteurs, qui a été aménagé il y a une douzaine d'années maintenant, au moment où le Mont-Saint-Michel a connu des travaux de réaménagement de ses abords, de ses accès. Pendant des décennies, les visiteurs stationnaient leurs véhicules au pied du mont. Il y a une grande opération, des grands travaux qui ont été menés dans les années 2000-2010, pour faire en sorte qu'on puisse justement libérer de l'emprise de ces véhicules et de la haute digue qui bloquait toute circulation des courants maritimes autour du rocher du Mont-Saint-Michel. Ces grands travaux ont conduit à la construction de parking à 2,5 km du rocher. Et donc on a ce bâtiment d'accueil qui permet aux gens, d'une part, de prendre des dernières informations, s'assurer de la véracité des choses qu'ils ont pu collecter, glaner ça et là sur Internet et les réseaux. Et puis leur donner toutes les infos pratiques sur le moyen d'emprunter les navettes qui relient gratuitement les parkings jusqu'au mont tout au long de la journée.
Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semblait pertinent de faire un point sur la gestion du Mont-Saint-Michel. Donc l'établissement public, industriel et commercial dit EPIC du Mont-Saint-Michel a été créé par décret en 2019 sous la double tutelle des ministères de la Culture et de la Transition écologique. Il a remplacé le syndicat mixte. Concrètement, qu'est-ce que ça change, cette création de l'EPIC du Mont-Saint-Michel?
Alors le syndicat mixte, il avait vocation à gérer les travaux que je viens d'évoquer, mais il n'avait pas vocation forcément à assurer le suivi après coup. Et puis, il y a eu un constat qu'à l'issue du travail de l'État, qui a investi quand même plusieurs centaines de millions d'euros dans ses travaux d'aménagement, ainsi que les collectivités locales, il manquait peut-être un outil de concertation, de coordination des acteurs, servant notamment des missions d'intérêt général. Et encore trop d'intérêts privés qui prédominaient l'intérêt collectif. Et surtout, chacun gérait un petit peu ses affaires sans forcément mettre le visiteur au centre du sujet. Donc il y a eu un enjeu et on a créé cet établissement public par décret, effectivement, en 2019. Et au sein du conseil d'administration de l'établissement public, il y a pour moitié des représentants de l'État, des deux ministères que vous avez cités, mais pas que. Et puis des représentants des collectivités locales aussi, région Bretagne, qui maintenant va commencer à prendre un petit peu ses distances par rapport à l'administration de cette entité, région Normandie, département de la Manche, et puis les communautés d'agglomération qui gravitent aussi autour de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc en fait, tout ce monde-là est réuni dans un objectif commun de faire mieux fonctionner le Mont-Saint-Michel, maintenant que les grands aménagements ont été réalisés. S'assurer que finalement on garantisse la meilleure satisfaction des visiteurs.
Parce que c'était géré comment avant ? C'était...
En fait, il y avait une délégation de gestion pour le service de navette et la gestion des parkings auprès d'un opérateur privé, mais qui lui, finalement, considérait trop peu la place du visiteur dans son écosystème, s'occupait peu des gens qui avaient des obligations de rejoindre qui un guide de l'abbaye, qui un horaire de visite à l'abbaye. Et donc voilà, il fallait mettre un petit peu d'huile dans tous ces rouages. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs différents au Mont-Saint-Michel. C'est souvent ce qu'on... C'est pour ça que vous avez du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, j'ai parlé de deux régions, de départements. Enfin, on est aux confins de tout ça aussi. Et puis, il y a des opérateurs publics, il y a des acteurs privés, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants qui tiennent des boutiques, des guides conférenciers, des guides qui accompagnent les visiteurs en traversée dans la baie. Il y a énormément d'acteurs différents. Et donc, il faut arriver à mettre tout ce petit monde en musique, parce que finalement, on sert tous les mêmes objectifs et les mêmes publics. C'est-à-dire des gens qui viennent vivre un moment d'exception dans un lieu incroyable, dont ils ont entendu parler depuis des années, pour beaucoup d'entre eux, puisque 2/3 des visiteurs viennent de l'étranger. Ils ne viendront qu'une fois dans leur vie. Donc, il faut qu'on soit au top, il faut qu'on soit sûr de faire en sorte qu'ils repartent avec une image qui correspond un peu à ce qu'ils ont rêvé en arrivant. Donc voilà, nous on sert un peu globalement à tous ces objectifs. Et puis après, on est un établissement public d'État, donc, qui entretient des liens avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités pour s'assurer que toute la chaîne, finalement, fonctionne bien.
Moi, j'avais une question. Vous parlez du coup de plusieurs régions et de plusieurs départements. Donc il y a une co-gestion entre la Bretagne et la Normandie, c'est le cas. Comment ça s'organise ?
Ça s'organise autour d'un... On a une ligne directrice qui est établie d'ailleurs depuis à la fois longtemps et finalement assez peu de temps. Je m'explique, depuis 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis uniquement l'année dernière, et c'est même en cours de validation par le comité du patrimoine mondial, on a écrit tous ensemble, bretons, normands, manchois, brétiliens, les habitants d'Ille-et-Vilaine, on les appelle les brétiliens, je crois. Et puis l'ensemble des acteurs économiques aussi, on a aussi associé les commerçants et les acteurs privés que j'ai déjà évoqués, et toutes les collectivités, les services de l'État qui se préoccupent aussi de la protection du lieu. On a écrit ce qu'on appelle un plan de gestion, c'est-à-dire finalement on a écrit une feuille de route collective pour se dire bon, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir la dégradation de cet espace incroyable ? Comment on s'organise ? Quelles sont les actions prioritaires sur lesquelles on peut agir. Et l'établissement public est un des acteurs qui est chargé du pilotage et de la mise en œuvre de ce plan de gestion. C'est-à-dire que plus que jamais, on va finalement continuer à associer l'ensemble des acteurs en disant, bon voilà, on a décelé tel objectif prioritaire. Il faut qu'on améliore la signalétique pour que les gens qui arrivent au Mont-Saint-Michel se perdent pas dans les parkings, cherchent pas, tournent pas en rond, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? Et on définit le plan de signalétique tous autour de la table.
Et voilà. Et ce plan de gestion, donc, il est en cours de vote. Enfin, en tout cas, il va être mis en place.
Oui.
Mais on sait que dans ce plan de gestion, il y a un onglet environnement. Qu'est-ce qui est prévu pour l'instant au Mont-Saint-Michel à l'heure actuelle ?
En termes d'environnement ?
Oui.
Alors, les grands travaux, ils ont déjà permis un certain nombre de réhabilitations. La présence, depuis la fin du 19e, d'une route digue qui empêchait la circulation des courants hydrauliques autour du Mont-Saint-Michel... Mais ça, c'est plus la partie de Kevin que la mienne. C'est important parce qu'il a plein de choses intéressantes à vous dire, beaucoup plus que moi sur le sujet. On a déjà rétabli en fait des phénomènes naturels de circulation des courants autour du rocher du Mont. Après, il y a plein de choses qui se passent aussi du fait du renforcement des effets du barrage qui a été construit sur le Couesnon, un des trois fleuves côtiers, qui aussi conduit à des déports de sédiments sur d'autres endroits de la baie, qui a aussi peut-être contribué à modifier les courants des autres fleuves côtiers qui sont la Cé et la Célune. Donc il y a des choses encore à regarder. Nous, ce qu'on fait au niveau de l'établissement public, c'est observer les suivis de faune et flore, voir comment un peu les populations d'oiseaux, les phoques, les coquillages... les anguilles, enfin voilà, les poissons en général, on essaie d'observer un petit peu, de faire des comptages pour vérifier si les actions qu'on a menées produisent des effets positifs ou négatifs. Et puis, dans le cadre des réaménagements, à chaque fois qu'on a dû artificialiser une zone, on a créé ce qu'on appelle des zones de compensation. C'est pour ça que nos parkings ne sont pas des parkings, ce sont plutôt des espaces naturels dans lesquels les voitures sont tolérées. Et aujourd'hui, on a planté partout des roselières où se développent des populations d'amphibiens, d'oiseaux, d'insectes, tout ce qui contribue à la croissance de la biodiversité. Donc on a pensé ce programme d'aménagement véritablement comme un programme écologique. Il a été conçu dans les années 95 à 2005, donc ça veut dire qu'il y a déjà 25-30 ans, on était presque un peu à l'avant-garde, on va dire, par rapport au projet d'aménagement. En tout cas, on n'était pas en retard. Et aujourd'hui, ça produit des effets. On voit des espèces qui se reproduisent, même si malheureusement, les populations d'oiseaux en particulier sont elles aussi contraintes à l'ensemble des fléaux qui les touchent partout en Europe et dans le monde. Et que si les populations de migrateurs décroissent, c'est pas du fait de manque d'aménagement autour du Mont-Saint-Michel, c'est par rapport aux effets de pollution, aux canicules, on en sort d'une, et à tous les périls auxquels les oiseaux sont confrontés.
Et ça me fait penser, ce plan de gestion, est-ce qu'il y a des professionnels du terrain, par exemple, qui ont été consultés pour apporter aussi leur regard pour construire ce plan de gestion?
Alors oui, je suis content que Kevin soit là parce qu'on a beaucoup travaillé avec le syndicat des guides de la baie, et pas uniquement. Enfin, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs des espaces naturels pour justement travailler à... on a de la pédagogie à faire. Et ça, c'est leur boulot en tant que médiateur. Nous, on intervient, on crée, on va dire, les espaces d'exécution de leur mission. Mais leur travail à eux, c'est de faire de la pédagogie. Alors, ils le font super bien auprès de tous les publics. C'est très important, ils interviennent beaucoup auprès des groupes scolaires. Et c'est les jeunes générations qui, demain, vont avoir les bons outils pour comprendre ce qui se passe, ou tout au moins, peut-être qu'ils ont aussi une perception plus affirmée que nos générations un peu plus anciennes. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui vont permettre de sensibiliser les publics au sens large à la qualité exceptionnelle de l'environnement qu'on a en baie du Mont-Saint-Michel, mais qui est un écosystème hyper fragile, et demain, tout peut basculer.
Oui, c'est vrai que quand on regarde tous les objectifs du plan de gestion, on voit que déjà les référents, en tout cas ceux qui gèrent et qui animent chaque fiche d'action, ne sont pas les mêmes acteurs. Et après, selon le thème, on va faire appel à différents acteurs. Donc on va plus être, en termes de syndicats, appelés sur les thématiques qui concernent vraiment la baie en elle-même. Mais après, il y a d'autres sujets qui vont nécessiter d'autres acteurs locaux, d'autres spécialistes, même si je ne me considère pas spécialiste. Mais c'est assez pluridisciplinaire quand on regarde tout ce qui est fait dans le plan de gestion, qui est assez vaste et qui touche beaucoup de sujets différents. Donc c'est une démarche qui est assez participative et qui englobe beaucoup d'acteurs locaux. Et c'est aussi sa force, je pense, aujourd'hui.
Et vous l'aviez dit tout à l'heure, Hervé Bierjon, le Mont-Saint-Michel et sa baie ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO à double titre. En 1979, une première fois sous l'intitulé Mont-Saint-Michel et sa baie, et en 1998, en tant que composante du bien dit sériel Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Donc, est-ce que cette reconnaissance, elle apporte une protection particulière au site? Quel est l'intérêt, en fait, pour le site de bénéficier de cette reconnaissance classée, donc cette classification au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors, c'est un engagement, en fait. Ça nous délègue une responsabilité. Le mandat que nous confie l'UNESCO, et qu'il confie finalement, c'est l'État français qui classe, qui demande l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de certains des sites patrimoniaux, naturel ou culturel, ou mixte parfois, qu'il considère comme étant représentatif de son patrimoine national. Et donc, il délègue à des autorités locales, comme nous, et en lien, Kevin l'a rappelé, avec l'ensemble des acteurs concernés par le site, la responsabilité d'une transmission intègre aux générations futures. C'est ça le mandat qu'on a. C'est-à-dire qu'on prend le bien à un instant T, et on se doit de le transmettre aux générations qui seront là dans 200 ans, dans un état au moins aussi préservé que celui qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc l'enjeu, il est incroyable, quoi.
Tout en respectant le passé de ce lieu aussi, quoi. Il y a aussi cette contrainte qui est là aussi, c'est qu'on prend en compte tout ce que représente en fait le bien Et effectivement, avec une vision dans le futur. Quoi. Donc, on amalgame en tout cas le passé et le futur, ce qui est assez ambitieux, on va dire, comme projet.
Et sans en faire un sanctuaire au sens. On ne le met pas sous cloche. C'est-à-dire que ça reste un lieu vivant, ça reste un cadre de développement, il y a de l'activité économique, il y a des gens qui viennent s'installer dans la région, donc on développe de l'habitat. Il faut qu'on arrive à conjuguer la vie normale d'un territoire qui aspire à se développer ou qui cherche plutôt à maintenir certaines activités. On se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple concret, la carte postale des moutons de prés salés, elle tient sur un maillage d'éleveurs qui sont vieillissants, comme partout dans l'agriculture en France, et on a du mal à se projeter sur une relève. Donc demain, cette population de moutons de prés salés, enfin ces troupeaux de moutons de prés salés qu'on voit autour du Mont-Saint-Michel, est-ce qu'elle appartiendra au passé ou pas? Et du coup, s'il n'y a plus d'activité de pâturage, ça va modifier aussi les paysages. Donc là, pour le coup, la préservation du mont intègre pour les générations futures, elle est mise en péril. Donc vous voyez, c'est un acteur économique, c'est au départ, c'est un éleveur de moutons qui fait qu'on est garant de la pérennité de l'espace qu'on découvre aujourd'hui.
C'est quelque chose qui vous inquiète, la pérennité du site à l'avenir?
J'ai envie de dire que ça fait 1300 ans que le Mont-Saint-Michel a trouvé les moyens de rebondir et qu'il y a des enjeux. C'est un emblème du patrimoine national et même du patrimoine mondial, on vient de le dire. Donc je pense qu'on arrivera pour ce site-là toujours à trouver des moyens. Puis il y a des gens qui se mobilisent en fait pour le défendre aussi en permanence.
Bon, il y a une dynamique très forte du fait de la multiplicité d'acteurs et du fait de les réunir autour de la table sur plusieurs sujets. On voit qu'il y a quand même une dynamique très très forte pour faire face aux futurs enjeux. Après, si on revient sur les agneaux de prés salés, hier il y avait une manifestation pour un éleveur qui est en contentieux parce qu'il a construit une bergerie, alors c'était pas légal, il y a tout un truc. Mais finalement, on s'aperçoit que pour une bergerie en bois, on a une série de procès qui durent 10, 12 ans, alors qu'on est sur une activité patrimoniale, justement, et qu'il y a de moins en moins d'éleveurs de prés salés. Le mouton de prés salés, il est là pour être vendu, c'est sûr, enfin l'agneau, mais il a aussi une importance dans l'écosystème parce qu'il permet d'entretenir les prés salés, d'éviter un envasement trop important qu'on peut voir aujourd'hui au nord de la baie, en partie lié aux travaux de désensablement dont on a parlé tout à l'heure. On a une forte accrétion, un fort relevé du niveau de sol au nord de la baie et donc une forte création de prés salés. Les plantes de prés salés, elles ne peuvent se développer qu'à partir d'une hauteur de 11 mètres par rapport au zéro hydrographique. Alors 11 mètres, ça fait à peu près un coefficient 80. C'est-à-dire qu'en dessous de coefficient 80, il n'y a pas de plantes de prés salés et au-dessus, ça peut commencer à se développer. Et après, plus on va dans les étages supérieurs, plus on va avoir des plantes différentes. Là, on a une relevée du niveau de sol dans le nord, on a beaucoup de prés salés. Ça, c'est des parties où les moutons ont toute leur place. Et encore une fois, c'est une activité patrimoniale. Donc on a aussi des fois des contradictions entre des choses qu'il faut entretenir, à mon sens aussi. Hein. L'agneau de prés salés, effectivement, c'est l'image de carte postale, mais ce n'est pas que ça. Ça a un vrai rôle dans la biodiversité aussi du prés salé en lui-même, parce que le fait de brouter, ça va diversifier les plantes. Il n'y en a pas qui vont prendre plus d'ascendants que sur les autres. Pardon. En tout cas, on va arriver à avoir un certain équilibre. Donc on a des fois des contradictions, mais c'est vrai qu'on a quand même une dynamique globalement, là j'ai pris cet exemple parce qu'il y a un petit contre-exemple à côté, mais on a une dynamique globalement qui est assez grande sur ce lieu qui génère beaucoup d'actions, quoi. Enfin, et il y a beaucoup de volonté de préserver ce milieu, parce qu'on a un patrimoine mondial de l'UNESCO, on a Natura 2000, hein, on est classé Natura 2000, on a des conventions Ramsar sur tout ce qui est milieu humide, enfin je veux dire en termes de protection, les protections littorales pour la construction, enfin vous avez vu, il n'y a pas trop d'immeubles hein, sur les bords de la petite baie, ça on en est très content, mais voilà, on a beaucoup de protections qui font qu'on peut aussi envisager d'avoir des actions qui sont pérennes aussi dans le temps. Mais c'est très propre à celui-là, il y a d'autres lieux de tourisme qui est de masse, hein, parce que comme vous l'avez dit, on est dans du tourisme de masse, en tout cas sur le mont, qui ont bien moins de protection que ça, et on voit que ça tourne un peu vinaigre des fois. Quoi.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de la construction de la digue, donc qui a fait perdre le caractère insulaire au Mont-Saint-Michel. C'était des travaux énormes. Quelles conséquences ça a eu, ça, sur la biodiversité, la belle environnement autour du Mont-Saint-Michel, ces travaux ?
Typiquement, le but était de maintenir le côté insulaire du mont. C'était aussi justement garder le passé pour en envisageant le futur. Ça fait un peu partie de tout ce programme de l'UNESCO, enfin lié au patrimoine mondial de l'UNESCO. La conséquence, ça a très bien marché. C'est que le niveau du sol au niveau du mont, il a baissé de plusieurs mètres. On est revenu à un niveau de sédimentation, donc à une hauteur de niveau de sol qui est comparable à celle qu'on avait au début du XXe siècle. Alors, quelque chose qui est très important à savoir sur la baie du Mont-Saint-Michel, c'est qu'on a un phénomène de sédimentation qui fait que la baie, naturellement, se referme. Elle se referme pourquoi ? Parce que le niveau de sol monte, et comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'un certain niveau de sol, les plantes vont se développer. Donc, plus on va avoir un niveau de sol élevé, plus on va avoir de plantes de prés salés, éventuellement plus on va avoir de moutons, mais ça c'est autre chose. De ce côté-là, l'idée des travaux, donc c'est un barrage, qui accumule de l'eau du Couesnon et de l'eau de mer en amont. On accumule de l'eau du Couesnon et de l'eau de mer en amont du barrage et on fait des lâchers d'eau. Donc on donne de la force au fleuve, en fait, qui n'en avait plus beaucoup, en tout cas plus assez pour faire cet effet de chasse. Parce que les fleuves ont cette particularité-là dans la baie, c'est de bouger. Et donc ils maintiennent un espace très très ouvert parce que là où ils vont se mettre, ils vont arracher les sédiments. On a des espaces assez impressionnants. Là, ça racle sur des mètres et des mètres de prés salés. On a des marges, des fois, ça fait 3 mètres, 3 mètres 50. En quelques dizaines de mètres, on perd 3 mètres, 3 mètres 50 de hauteur de sol parce que les fleuves ont beaucoup de force. Donc, on a le Couesnon et on a la C et la Célune qui, historiquement, sont plutôt au nord de la baie, qui parfois vont au sud. Là, une des conséquences des travaux, ce qui a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est que... ça a favorisé, est-ce que c'est l'unique raison ? Mais en tout cas, on a vu que la C et la Célune, qui étaient très très au nord dans la baie auparavant, au bord de prés salés, qui était là depuis pas si longtemps que ça, parce que 50 ans en arrière, ils n'étaient pas là, ça évolue très vite, c'est un milieu qui évolue très vite, du fait des déplacements des fleuves. La C et la Célune sont allés plutôt dans le sud. Donc on favorisait finalement l'effet de chasse, parce qu'ils sont arrivés en complément du Couesnon qui était boosté à l'eau de mer. Donc on a eu un dégagement de sédiments assez rapide, le résultat est assez impressionnant. Moi, sur ma petite carrière de guide, moi c'est ma 8e année, quand on voit les alentours du mont, ça a complètement changé. On a beaucoup de rochers qui ont été... qui se sont révélés au jour parce que les bancs de sable qui entouraient quasiment complètement le mont se sont fait raboter. Il n'y a plus qu'un peu à l'est où il y a un banc de sable qui est encore assez haut, proche et qui relie l'entrée principale avec l'esplanade en béton. Mais il est tout petit par rapport à ne serait-ce que ce qu'il était il y a 3-4 ans. Donc on a un niveau de sol qui descend très, 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 très vite. Ça, pour l'instant... Je la vois pas encore cette conséquence-là, mais je pense qu'elle va arriver. C'est que, en fait, on avait historiquement de la pêche à pied autour du mont, qu'on n'avait plus du tout avant, ces dernières années, parce que les coquillages, ils ont besoin d'un certain niveau de sol, ils ont besoin de la mer, en fait, parce que sinon, ils meurent à un moment donné. Et donc, ils vont se mettre au niveau de mi-marée. Là, le niveau de mi-marée, plus le sol monte, plus il va vers le large. Donc maintenant, les coquillages étaient beaucoup plus au large, les zones de pêche à pied sont plutôt vers les falaises de Champeau, qui sont déjà. Vers le mont, ça doit être à une dizaine de kilomètres, je pense, en ligne droite, à vol d'oiseau. Mais là, vu qu'on a baissé le sol très très fort, on peut se dire que on va peut-être avoir un peu plus de coquillages, parce que là, les conditions font que la mer vient assez souvent pour que les coquillages se réimplantent. Donc peut-être qu'on pourra refaire de la pêche à pied autour du mont. Donc ça c'est une conséquence qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, que demain, on pourra peut-être revoir. Donc ça, c'est une des conséquences très très visibles. Après, on voit aussi beaucoup plus d'oiseaux dans la partie sud de la baie, parce qu'en fait, les oiseaux suivent la mer. Hein, la plupart se nourrissent dans la mer. Donc, et au nord, maintenant, vu que, grosso modo, on a déplacé les sédiments, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc au nord, y a beaucoup de prés salés. Là, on est en période de solstice. Donc les marées les plus importantes, c'est en période d'équinoxe. Okay. Donc là, on est en plein milieu. Donc on n'a que des petites marées. Même les marées importantes, en gros, on ne va pas dépasser des coefficients de 90 aujourd'hui et on ne va pas descendre en dessous de 50, grosso modo. Plus on va approcher des équinoxes, plus on va avoir des écarts importants. On va se rapprocher de 100, 110, 120 dans les années exceptionnelles. Et puis, à contrario, les petites marées vont être très, très petites. 25, 30 Donc l'écoef, ça va de 20 à 120. Donc les oiseaux, ouais, bah, restent dans les parties les plus humides, parce que c'est là où bah, il va y avoir des poissons qui vont se laisser enfermer dans des anciens bras de fleuve, où la mer va rester entre deux marées. Donc là, il va y avoir des petits poissons. Allez hop, goélands vont les choper, un petit mulet, un petit saumon, s'ils ont de la chance, parce qu'il y a des saumons dans la baie. Tous ces oiseaux-là, il y a d'autres oiseaux qui vont se nourrir plutôt d'alevins, mais donc toujours pareil, rapport avec la mer. Après, on a les limicoles, qui sont ceux qui ont les longs becs, qui vont aller chercher les coquillages et les crustacés dans le sol. Bah, eux, pareil, ils vont être plutôt proches du mont, parce que c'est là où on va avoir le plus de coquillages, comme je disais tout à l'heure. Après, il y en a d'autres qui peuvent aller plus haut, parce qu'on a des petits organismes qui s'appellent des chorophyllums, qui sont des mini-crevettes, qui sont dans la mer quand la mer est là, mais qui après, entre deux marées, vont se planquer dans le sous-sol, comme les coquillages, hein, grosso modo. Ça fait des petits points sur le sol, c'est assez joli. Il peut y en avoir 10 000 au mètre carré, ces animaux-là, bah là, les micoles, c'est là où ils vont aller manger. Donc on voit plutôt que quand on traverse, quand on part du nord, on voit quand même beaucoup moins d'oiseaux, parce qu'ils collent plus à l'eau, quoi. Forcément, c'est là où ils vont avoir leur nourriture. Le barrage, il a été mis en service en 2010, non, si
2009.
2009.
Ce sont les grands travaux voilà, qui ont permis de rétablir le caractère insulaire, effectivement. On a détruit la route digue qui fermait le passage et la circulation des courants autour du rocher. Aujourd'hui, vous avez un pont passerelle. Il y a une route digue côté continent, on va dire, mais côté rocher, on est vraiment sur un pont passerelle qui rejoint cette esplanade en béton au pied du mont, mais qui permet, qui autorise la circulation de l'eau tout autour de l'île rocheuse. Et en arrivant du Couesnon, on lâche l'eau sur deux chenaux, un qui passe à l'est, donc à droite quand on regarde le Mont-Saint-Michel, et l'autre à l'ouest, à gauche quand on regarde le Mont-Saint-Michel, de manière proportionnée, en fonction des besoins justement des ensablements qu'on va mesurer. Et par rapport à ce que disait Kevin, en fait, à la fois sur les effets d'espace en mouvement permanent, le fait que le barrage ait un impact sur les mouvements sédimentaires, c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres facteurs. On a arasé les barrages sur les fleuves, les autres fleuves côtiers. Il y a des tempêtes de plus en plus fortes, non seulement en hiver, mais malheureusement dans d'autres saisons. Il y a les effets caniculaires qui vont aussi avoir des effets sur l'évaporation. Enfin bon, il y a énormément d'éléments sur lesquels il est très difficile aussi d'avoir une vision complète, globale, de l'impact de chaque facteur, si vous voulez, qui va modifier l'ensemble. Donc nous, au niveau, ce qu'on essaye de faire, c'est au moins d'agir sur le seul élément qu'on maîtrise, ce sont les lâchers d'eau. Voilà, donc les chasses au niveau du barrage sont régulées, et aujourd'hui on n'est plus dans un rétablissement du caractère maritime, on est dans le maintien du caractère maritime. Les enjeux de désensablement du rocher montois, ils sont atteints. On n'a plus besoin d'aller creuser plus autour du mont.
On aurait même mieux pas d'ailleurs.
Ouais. Et on aurait plutôt tendance à laisser les sédiments revenir un peu. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique, un fonctionnement qu'on appelle estuarien. C'est-à-dire, c'est grosso modo, c'est comme si on laissait le fleuve fonctionner tout seul sans que le barrage n'ait aucun effet. Pour voir aussi comment l'ensemble se comporte. Donc on est attentif sur les éléments qu'on peut maîtriser. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y en a de moins en moins qu'on peut maîtriser.
Oui, c'est sûr que c'est multifactoriel. Là, on parle vraiment d'effets qu'on peut voir qui sont directement liés au barrage. Mais après, il y a toute chose dans l'environnement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. On ne peut pas s'extraire de la situation globale, quoi.
Et pourquoi il ne vaudrait pas mieux... Enfin, il faut laisser les sédiments se replacer, les laisser plus creuser.
De manière à ne pas justement favoriser soit une érosion, soit un déplacement qui modifie la physionomie globale de la baie et éventuellement la préservation de la biodiversité sur l'ensemble du périmètre.
Après, là on voit qu'on est quand même sur une baie à deux niveaux aujourd'hui. On a une grosse marche entre un axe Tomblaine, le Grand du Sud. Le Grand du Sud, la pointe du Grand du Sud, c'est la fin de la baie, le bout de l'entonnoir, entre guillemets. Là, on a eu une remontée niveau sol très très rapide, encore une fois, développement de prés salés. Et on a une marche à certains endroits, encore une fois, 3 mètres et tout ça. Et là, on rentre dans une zone basse. Donc si on creuse encore, ça va faire vraiment un dérèglement. Et puis chaque espèce va être adaptée à un certain niveau de sol. Enfin, en tout cas, à une gamme de niveaux de sol. Donc plus on va creuser, plus on va d'un côté, plus ça va se renvaser de de l'autre, on va avoir tous les organismes qui sont dans les zones intermédiaires qui vont plus s'y retrouver. Et après, je disais ça sur le creusement, c'était aussi parce qu'il y a une partie du monde qui est quand même pas sur le rocher en lui-même, de base. Donc, à un moment donné, on a eu une situation, il y a trois hivers, il me semble, où on avait la Célune et le Couesnon Est, qui étaient tous dans le même lit, et qui passaient vraiment très très près du mont, qui ont d'ailleurs révélé des digues qui sont des protections, des fondations, des fortifications, parce que la majeure partie des fortifications qui sont sur le côté sud et est n'ont pas été construites sur le rocher, parce qu'il n'y avait plus de place sur le rocher pour les construire à l'époque où on les a construites. Et à un moment donné, les flots des fleuves, si jamais on était resté dans cette situation-là, un flot de fleuves continu dans les fondations des fortifications, ça a beaucoup de force. Hein. D'ailleurs, il y a une ligne de partage entre le chenal est et le chenal ouest qui, à un moment donné, a été détruite lors d'une marée, parce que force des fleuves, force de la mer, c'est là où les fleuves vont bouger le plus, c'est là où ça va être très très costaud, quoi. Et même des digues peuvent sauter. Donc à un moment donné, on arrive effectivement à... Déjà aujourd'hui, quasiment le mont sur chaque marée, même des toutes petites, il est entouré aux deux tiers, quoi. Il reste ce banc de sable là qui est vraiment sur le côté est-sud-est, et puis l'esplanade béton, Mais sinon, tout le côté ouest, il est rempli quasiment tout le temps. Le côté nord, aussi, hein, quasiment sur chaque marée, on a la mer peut-être pas au pied du rocher principal, mais en tout cas vraiment pas très loin, quoi.
Et on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, le Mont Saint-Michel accueille environ 2,5 millions de visiteurs par an. Malgré que le Mont Saint-Michel a été conçu comme un lieu à la base de pèlerinage, un lieu de passage, est-ce que en haute saison, le Mont Saint-Michel, il atteint ses limites en termes de fréquentation ?
Il y a 10 à 15 jours par an où c'est assez inconfortable.
En
juillet, août et au printemps, sur les grands week-ends, les week-ends de mai. Et sur la période estivale, entre le 15 juillet et la fin du mois d'août. Paradoxalement, la période la plus forte serait plutôt la semaine après le 15 août, alors qu'on a le sentiment que tout le monde s'en va à ce moment-là. Non, c'est là où nous, on monte en puissance. Mais globalement, il y a 10 à 15 journées dans l'année où on a des effets de saturation plus marqués que... C'est un lieu, vous l'avez dit, qui a été pensé à l'origine pour accueillir du monde. Il le fait bien. L'enjeu, en fait, c'est de bien répartir les flux sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble de l'année déjà, et sur l'ensemble de la journée quand on est en période de forte affluence. Donc c'est ce à quoi on s'attache, ce à quoi on travaille, en ayant des incitations fortes pour que les gens viennent tôt le matin, avant 10h ou après 15h. Qui profitent aussi d'une journée pour pratiquer d'autres activités que de s'entasser bêtement dans la rue commerçante, en allant, par exemple, faire une sortie en baie.
Ah, bonne idée.
Mais aussi faire une sortie nature. Je parlais des roselières, on parlait du barrage, il y a un verger conservatoire, on a une zone humide qui a été créée au moment des travaux qui s'appelle Lance de Moidré. Il faut considérer le Mont-Saint-Michel et sa baie. C'est pour ça que l'inscription à l'UNESCO, elle prend tout son sens, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a même aussi sur les rives, à Vins, à côté de la pointe du Groin du Sud, il y a un écomusée qui est super intéressant sur comprendre la géologie de la baie. Tout ce qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure. Il y a plein de cartographies, des maquettes en 3D. Ça, beaucoup d'éléments où on comprend les techniques de pêche à pied anciennes, la vie faune, tous les oiseaux. Il y a énormément de sujets, d'endroits où on peut comprendre, ou de gens comme Kevin et tous ses confrères et consoeurs qui peuvent nous aider à mieux comprendre la baie et finalement à mieux consommer, j'ai envie de dire, cette destination Mont-Saint-Michel. En bonne intelligence et sans être dans les flux d'affluence les plus importants. Aujourd'hui, on a la chance, c'est une région extrêmement touristique, on a énormément d'acteurs comme les hébergeurs, par exemple, propriétaires de meublés, chambres d'hôtes, gérants d'hôtels et de camping, qui préconisent finalement, on ne fait pas de limitation, on ne dit pas aux gens « venez pas », on ne met pas de quotas, mais on fait de l'incitation pour expliquer aux gens les bons usages, les bonnes pratiques du monde pour être sûr de venir au bon moment, que la visite soit au moins aussi satisfaisante que celle qu'on a rêvée.
Alors, effectivement, on a des jours où c'est vraiment l'enfer. En tout cas, personnellement, ça, je n'aimerais pas du tout. Globalement, on est quand même sur un rocher où il y a deux rues principales, quoi. Donc, forcément, c'est quand même engorgé quand même beaucoup de temps. Moi, effectivement, je dis à mes clients, vous voulez visiter le monde, allez-y à 8h du matin. Parce que les boutiques sont fermées. Mais bon, les boutiques, moi, je ne les considère pas d'un très haut niveau sur le Mont. Je pense que c'est un sujet, d'ailleurs, ça doit être dans les plans de gestion. Oui, oui. Parce qu'on ne rend pas vraiment hommage au Mont-Saint-Michel, à mon avis, avec ce qu'on propose en termes de boutiques. Bref, donc ouais, je conseille effectivement de décaler. Mais il faut aussi s'imaginer que... Pour moi, le rocher, il n'est pas taillé en lui-même pour autant de gens. Et je pense que ce n'est pas une expérience formidable pour beaucoup de monde, parce qu'on est vraiment à l'étroit quand même. Après, et ça, quand même, une bonne partie de l'année. Et il y a des week-ends absolument où il faut vraiment éviter d'y aller. L'Ascension, le 15 août, ça, c'est sûr que là, vous allez au casse-pipe direct. Mais si vous y allez à 8h du matin, vous êtes bien. Il n'y a personne. Vous pouvez monter à l'abbaye. Les premières visites doivent être à 10, non ?
Ça ouvre à 9h.
9, bon voilà, bah parfait.
Ou après 16h, c'est bien aussi.
Après 16h, mais on a moins de temps pour visiter l'abbaye. Des fois, c'est dommage. Parce que ça aussi, on a quoi ? À peu près la moitié des gens qui visitent l'abbaye sur la fréquentation. À mon sens, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Quand on fait une visite guidée avec des guides qui sont très compétents, moi j'en fais de temps en temps pour me remettre à la page, parce qu'il y a aussi des choses encore à découvrir sur le Mont. Il y a plein de choses qu'on a perdues du fait de la perte des manuscrits du Mont-Saint-Michel à différentes époques, et il y a des historiens qui bossent sur le Mont pour redécouvrir des choses. Donc ouais, le soir, effectivement, après 16h, il y a moins de monde parce que les gens commencent à repartir, mais après on a moins de temps pour visiter l'abbaye. Moi, je pense que le matin, c'est mieux. Mais après, je trouve que l'enjeu de répartir sur toute la zone, parce qu'elle est assez énorme, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir, il est intéressant. Et après, c'est comment on maîtrise le flux sur l'année. Moi, j'ai tendance à dire qu'avec autant de monde, j'ai du mal à voir comment on va faire. Voilà, globalement. On peut améliorer les choses, c'est sûr. Je pense qu'à un moment donné, il y aura toujours plein de monde dans la rue principale, parce que, elle fait 5-6 mètres de large, et encore, pas à tous les endroits. Donc voilà. Je crois que le maximum, c'était 36 000 personnes sur une journée en 2023, millénaire de l'abbaye. Bon, voilà, ça avait attiré du monde, forcément.
C'est arrivé une seule fois.
Ouais, c'est arrivé une seule fois. Non, mais je prends l'extrême, oui, non, mais j'entends. Mais voilà, même divisé par 3, 10 000 personnes, il faut quand même les caser sur le Mont-Saint-Michel.
On peut parler d'un surtourisme dans ce cas-là ?
Nous, on s'interdit d'évoquer cette mention-là. Considérant que la notion de surtourisme, elle est surtout applicable à des lieux qui sont habités pour d'autres vocations. On a des grandes villes européennes qui, effectivement, sont en difficulté par rapport à cette surabondance de public touristique qui crée finalement de la gêne pour le quotidien, qui empêche de trouver un hébergement, qui a plein d'impacts négatifs pour la vie au quotidien dans des villes d'une certaine importance quand même. Mont-Saint-Michel, on est sur un lieu qui a été créé pour faire venir du monde, pas un évêque en son temps, ça fait quand même 1300 ans que ça dure. Quand on arrive et qu'on s'installe ici, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du site du Mont-Saint-Michel dans l'économie locale, parce que si on est boulanger à Pont-Orson, on va vivre grâce au Mont-Saint-Michel, qu'on a un commerce de chaussures à Avranches, on va vivre grâce au Mont-Saint-Michel. Enfin voilà, donc toute l'économie, elle est aussi liée. Il y a une zone d'influence économique, et donc d'habitat, de développement de la vie locale, qui tourne, qui gravite en tout cas autour du Mont. C'est en ça qu'on n'a pas le sentiment d'être sur un modèle comparable à ces grandes villes, comme j'ai cité Barcelone, Venise, enfin voilà, qui font un peu, ou même Berlin maintenant, Londres aussi, qui ont des vraies difficultés avec l'hébergement dit chez l'habitant, mais qui devient une économie à part entière avec les valises à roulettes. On n'est pas tout à fait dans la même physionomie. Après, ce que dit Kevin, il a sa perception, j'ai la mienne, on n'est pas tout à fait en phase. Lui est peut-être plus sensible aux effets de saturation. Moi, je pense qu'on a des vraies marges de progression pour permettre aux gens, il l'a dit d'ailleurs, venir tôt, moi je propose venir tard, mais les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'à force de dire venez tôt, on a de plus en plus de monde tôt le matin. Et donc nos marges de progression aujourd'hui sont plutôt sur la fin d'après-midi, pour passer un moment sympa. Qu'on ait des pics de fréquentation touristique, c'est indéniable. Il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où c'est désagréable. On le dit franchement, le week-end de l'Ascension, on est tous d'accord, c'est vraiment pas le moment, il faut venir au Mont-Saint-Michel. Surtout quand on habite à une heure du Mont, parce qu'on en voit aussi des gens qui habitent pas loin et qui se disent « Ah oh bah super, vendredi de l'Ascension, voilà. » Ah non, enfin, vous avez 360 jours dans l'année pour venir, choisissez pas celui-là. Mais globalement, ça reste supportable, gérable, et une fois de plus, on travaille à ce meilleur équilibre, finalement, des flux sur l'ensemble de l'année.
Et bah pour cet équilibre, on va écouter d'ailleurs un extrait d'un entretien avec Xavier Michel, maître de conférence en géographie au laboratoire Espace et Société de l'Université de Caen, à propos du phénomène de Disneylandisation des lieux touristiques.
Effectivement, on peut se rapporter à des analyses qui distinguent un petit peu mieux dans effectivement des sites touristiques transformés par la fréquentation et par également des effets qu'on relie hein, à la mondialisation. Et donc, il y a des phénomènes de standardisation des lieux avec des boutiques, des aspects en tout cas qui sont communs hein, à tout le monde ou le monde occidental actuel, des phénomènes de perte d'authenticité, des phénomènes donc de transformation des lieux. Le Mont-Saint-Michel est peut-être moins impacté par ces transformations. Effectivement, il y a la problématique de forte fréquentation, mais qui transforme moins l'aménagement, la nature du lieu que d'autres sites.
Est-ce que vous partagez cette opinion ? Est-ce que vous pensez que le Mont-Saint-Michel est épargné par ce phénomène de standardisation ?
Il y a 1300 ans, il y avait des pèlerins qui avaient besoin de manger, dormir et ramener un souvenir chez eux. Et on n'a pas attendu Instagram pour faire du Mont-Saint-Michel un lieu prisé. Donc, pour toutes ces raisons, oui, je rejoins assez le propos de l'expert qui vient d'intervenir.
Je suis assez d'accord avec ce point de vue. Il y a vraiment des endroits où c'est bien pire. Là, on n'a pas trop ce phénomène-là. Même si, encore une fois, je pense que le côté commerçant du Mont, qui historiquement était artisanal, il mériterait un petit coup de polish.
C'est en réflexion, vous disiez tout à l'heure.
Oui, c'est une des fiches d'action liées au plan de gestion dont on parlait au départ. Et je pense que c'est une très bonne chose.
L'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est l'un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux en Europe. 50 années d'ornithologie ont permis d'y observer un total de 356 espèces, globalement. C'est quelque chose que vous observez tous les jours, Kevin ?
Alors nous, on n'est pas dans la meilleure période, la période des traversées, pour observer les oiseaux, parce que les migrateurs, ils viennent plutôt en automne et en hiver. Par contre, on peut faire des petites balades en automne et en hiver, même sur le pourtour, et on voit beaucoup d'oiseaux qu'on ne voit pas pendant l'année. Ce qu'on observe, nous, c'est effectivement que les oiseaux changent. Alors, on a des oiseaux qui sont tout le temps là. Des goélands, on en a tout le temps. Des canards et tadarnes de belon, on en a tout le temps. En plus, au moins grand effectif, parce qu'il y en a une partie qui va migrer pendant l'année en mer du Nord. Voilà, ces oiseaux-là, on en a un peu tout le temps. Après, on va avoir des mouettes. Là, en ce moment, on en a, mais on n'en a pas tout le temps non plus. Et puis après, on voit que ça évolue pendant l'année. On va avoir des hérons à certaines périodes, pas à d'autres. Mais c'est vrai que la meilleure période pour observer les oiseaux, là pour le coup, et puis c'est raccord avec le surtourisme la surpopulation sur le Mont, venez en hiver parce qu'il y a plein d'oiseaux là pour le coup à observer, notamment les bernaches qui sont à plusieurs milliers, qui ont fait 6000 km pour venir nous voir, enfin pas forcément pour venir nous voir, mais en tout cas on peut les observer. Il y a beaucoup d'espèces qui arrivent et qui font escale en tout cas dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Et vous travaillez sur la baie du coup depuis 7 ans en tant que guide. Est-ce que vous avez observé des changements dans le paysage ou même dans la biodiversité ?
Alors on a l'îlot de Tomblaine hein, qui est un des jumeaux du Mont-Saint-Michel. Enfin ils ne sont pas vraiment jumeaux mais en tout cas ils sont arrivés à la même période géologique comme le Mont Dol d'ailleurs qui était autrefois en baie et qui ne l'est plus maintenant pour différentes raisons. Donc l'îlot de Tomblaine est une réserve ornithologique. Donc on a de la nidification. En ce moment, on est en pleine période de nidification de tout ce qui est goéland, aigrette garzette, héron garde-bœuf. On a aussi tous les ans un couple de faucons pèlerins qui est là. Ce qu'on observe, alors on a des comptages hein, qui sont faits par ailleurs, par certains organismes, on observe qu'il y a quand même une grosse baisse hein, du nombre d'oiseaux qui nichent sur Tomblaine. même des goélands, et pourtant dans l'imaginaire collectif, le goéland, c'est invasif. Alors bon, il faut se demander déjà pourquoi c'est invasif, mais on voit que sur Tomblaine, on en a moins. Alors, au profit un peu du mont, d'ailleurs, il y a plus de nidification sur le mont qu'autrefois, mais globalement, si on prend les deux populations, on voit que ça baisse. On a eu des épisodes... je ne sais plus quelle année, ça doit faire 2-3 ans, où il y a eu un bon épisode de grippe aviaire. Et quand on traversait, on voyait quand même pas mal de cadavres d'oiseaux sur le passage. C'est très facile de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit effectivement, alors la grippe aviaire c'est une des causes de mortalité. Après, encore une fois, on est sur de l'environnement, donc c'est multifactoriel et ça ne vient pas que de la baie du Mont-Saint-Michel, au contraire, j'ai même envie de dire. Mais on voit effectivement qu'il y a des populations d'oiseaux qui baissent. Ouais.
Et donc Kevin, on l'a dit, vous êtes guide sur la baie. Votre métier est concerné par la météo et notamment le changement climatique. On parlait avant de commencer cet échange de la canicule. Comment on adapte aussi ce métier aux événements extrêmes qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus fréquents à l'avenir ?
J'aimerais bien le savoir. Comment on s'adapte ? Là, sur les épisodes de canicule, concrètement... Moi, je proposais cette semaine-là, la semaine dernière, des grandes traversées, donc traversées du nord de la baie jusqu'au Mont-Saint-Michel, aller-retour. Donc ça fait 6h30 hein, la sortie, donc c'est un engagement assez fort, c'est sur une journée. Concrètement, quand on part à 10h du matin, il fait un peu chaud à un moment donné. Surtout qu'on était en morteau, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la baie, donc pas beaucoup d'espace où on pouvait se rafraîchir dans de l'eau. Donc là, ce qu'on fait, c'est déjà qu'on décale nos passages. Après, on a une interdiction qui est venue de la préfecture de sortir entre 13 et 19, qui était une expression du bon sens, en fait, hein, parce que franchement, sortir là, à ces heures-là, avec les températures qu'il y avait, c'était assez risqué, dans une zone où il n'y a pas d'ombre. Donc, on décale nos départs. Donc là, je suis parti à 5h, 6h du matin, donc ça, c'était cool. Moi, je propose souvent des sorties levées de soleil. J'ai pas beaucoup de monde. Et là, les gens sont obligés, donc ils viennent et ils en ont un bon souvenir. Parce que là, pour le coup, on parlait d'aller au mont très tôt. Là, vous faites l'aller, vous partez à 6 heures. Vous êtes levé de soleil sur la belle, arrivé au mont, il n'y a personne. Franchement, c'est magique. Un avis aux auditeurs. Si vous voulez faire ça, moi, je suis preneur. Et après, on suit les fleuves. Des fois, on change de lieu de départ. Moi, je suis parti du Groin du Sud parce que l'AC et la C-Lune passent devant le Groin du Sud et ils vont pratiquement jusqu'au mont aujourd'hui. C'est la situation actuelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, là, pour le coup, un aller-retour bête et méchant, même trajet aller-retour. Mais parce que c'était totalement adapté, j'ai marché dans l'eau, on se trempait, on se baignait, on se mouillait régulièrement la nuque, pour apporter de la fraîcheur aux gens au maximum et éviter d'avoir des malaises, parce que c'est quand même le risque. Surtout que là, on n'était pas en période de vacances, on n'était pas en week-end, c'est qui notre public à ce moment-là, en individuel. Alors il y a soit les scolaires, moi j'ai pas beaucoup de scolaires, mais j'ai des collègues qui ont des scolaires, je sais pas comment ils ont géré ça, j'imagine qu'ils ont dû en annuler, parce qu'en plus les scolaires ils ont peut-être un peu moins de latitude pour changer d'horaire, ou qu'ils les ont faites le matin, enfin je sais pas, mais moi c'est quand même des personnes âgées globalement que je vais avoir dans ces conditions-là, quoi, en semaine, en dehors de vacances, Donc on n'a pas envie d'aller en plein cagnard avec un groupe de 20 personnes âgées, c'est un peu risqué. On décale quand on peut. J'ai perdu quelques clients en route, dans l'affaire, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu loin.
S'il faut se lever à 3h du matin. Il faut préciser, ce sont des gens
qui sont désinscrits. Oui, pardon. Je ne les ai pas perdus en baie, effectivement.
On va rassurer tout le monde sur l'accompagnement avec les guides attestés de la baie. Il n'y a jamais de perte.
Tout à fait. Et on est parti et ça faisait des super sorties. Mais si ça se répète, Après, on a les orages. Alors là, les orages, c'est autre chose. Parce que quand on est en temps d'orage, les prédictions météo sont très compliquées, hein, on n'a pas de visibilité. Alors aujourd'hui, on a des applications météo radar qui sont assez intéressantes à utiliser parce qu'on a l'évolution des masses d'eau, des impacts de foudre et tout. Mais
globalement, on va une heure avant ou deux heures avant, voilà, on a une perspective sur une heure, grosso modo, parce que ça évolue tout le temps, en fait. Ils ne peuvent pas prévoir, en fait. Il y a trop de facteurs. Encore, on part encore de facteurs, de multifacteurs. Et donc, bah, là, ce que j'ai fait, ce qu'on fait aussi d'autres collègues, c'est qu'on dit, on va faire un petit tour. Pour l'instant, c'est bon jusqu'à telle heure. On va se réserver le temps pour revenir et après on va regarder comment ça évolue et après on pousse ou pas la traversée et sinon on raccourcit ou voire on annule si l'orage est prévu une heure après, ça sert à rien de sortir à part pour des petites balades autour du monde, parce que là je vous parle dans un cadre de grande traversée parce que moi je fais surtout ça. Après il y a plein d'offres de tours autour du monde qui font de 1 à 2 heures, là ils ont peut-être plus de latitude pour réagir, et puis il y a quand même un paratonnerre assez sympa juste à côté. Nous quand on est en plein milieu, le paratonnerre c'est notre groupe, donc c'est la situation dans laquelle on veut pas du tout se retrouver. Donc là on est sur notre téléphone quand même beaucoup, on prévient les gens, le programme de la sortie risque de changer ou pas, mais on va essayer de faire au mieux pour avoir la meilleure expérience possible et pour pas mettre nos gens en insécurité.
Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme responsable est basé sur 3 piliers, économique, social et environnemental. Aujourd'hui, c'est le pilier environnemental qui nous intéresse, même si les 3 sont intrinsèquement liés, on en a déjà un peu parlé. Ce pilier environnemental, il implique notamment de minimiser l'empreinte écologique des activités touristiques, de protéger la biodiversité et les écosystèmes environnants. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière de faire du tourisme au Mont-Saint-Michel, c'est un tourisme respectueux des écosystèmes ?
En tout cas, on y travaille. Vous dire à 100% qu'on est bon, non, on a toujours des marges de progression. Mais sincèrement, en tout cas, on s'attache à ce que les pratiques des touristes soient les plus respectueuses de l'environnement. Donc ça passe par les missions de pédagogie, ça passe par l'ouverture à des espaces naturels préservés ou récemment aménagés. On compte beaucoup, nous on fait beaucoup dans la pédagogie, la médiation, le dialogue en fait. On n'est pas du tout coercitif, on ne dit pas aux gens « venez pas », on ne dit pas aux gens « faites pas ci, faites pas ça », on les sensibilise simplement à la qualité exceptionnelle de l'endroit. Et je ne sais pas si c'est le caractère sacré du lieu, mais globalement il n'y a pas trop de papier gras partout. Les gens sont assez respectueux quand même, on peut le dire. Après quand on accueille 3 millions de personnes, 2,8 millions par an, forcément, il y a quelques petits écarts, mais dans l'ensemble, et puis on veille aussi à ce que le site soit entretenu régulièrement, il y a des équipes propreté qui passent, mais et puis après, au-delà de ça, c'est plus sur... on a des progrès à faire, on a parlé du commerce, nous on cherche à développer, notamment au centre d'information, on a une boutique qui valorise les produits locaux, donc là c'est peut-être plus sur le volet économique et social, encourager la promotion des acteurs du cru, plutôt que des produits importés de l'autre bout du monde. On valorise la restauration locale, mais pas forcément dans des grandes enseignes, mais plutôt chez les petits restaurateurs du coin. On a pas mal de gens qui ouvrent leur maison à la location meublée, accueillent des touristes. Donc, on essaie quand même d'être dans une logique de partage, d'échange, de lien social en fait, et ça pour moi ça participe beaucoup de la dimension du tourisme responsable, du tourisme durable, autant que la notion d'environnement.
Oui, sur la partie déchets, c'est vrai que nous quand on traverse la baie, on a quand même très peu de déchets, je dirais, domestiques. C'est assez
pêche,
appréciable.
Beaucoup, ouais.
Beaucoup de déchets d'activités de pêche, mythiculture, ostréiculture, qui sont plus gros, plus faciles à ramasser si on veut, qui dégradent un peu moins vite aussi. Après, c'est sûr qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de vent. C'est même pas forcément de la mauvaise volonté des personnes, c'est juste, t'as un papier, t'ouvres un truc. On est dans un monde où il y a du plastique partout. Les trucs volent autour du monde, il y en a quand même un peu, même si effectivement on pourrait s'attendre à bien plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est l'effet de masse qui fait que il va y en avoir, parce que c'est pas que les gens vont être de mauvaise volonté, même si peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent, je sais pas. Mais en tout cas, tout le monde a eu cette situation. Tu sors même un mouchoir, hop, et un coup de vent, on est en plein vent, on est dans la baie, ça vole. Après, faut courir après. C'est pas forcément facile dans toutes les circonstances. Mais globalement, ça reste un milieu, en tout cas sur le fond de baie, Après, il y a des milieux dunaires où, quand on va voir derrière les dunes, il y a quand même un peu plus de choses qui sont ramenées par la mer, mais ce n'est pas forcément lié au Mont-Saint-Michel en lui-même. C'est aussi des choses qui sont ramenées par la mer et qui viennent parfois de plus loin, alors, des fois de pas très loin, mais parfois de plus loin. Donc globalement, on est quand même sur un lieu assez propre de ce côté-là, sur le côté vraiment plastique des choses.
Malgré tout ça, il existe toujours le souci du nombre. Comment faire face à un tourisme de masse ? Et on va écouter à nouveau un extrait de notre entretien avec Xavier Michel, maître de conférence en géographie, à propos de la régulation des flux touristiques.
On peut donner une première réponse en percevant la réalité de la fréquentation de ce site, qui est la question de sécurité des visiteurs eux-mêmes. Ensuite, il y a aussi des questions objectives qui sont celles de la préservation d'environnements naturels, de faune, de flore, voire de paysage. Et puis ensuite, il y a les questions plus subjectives qui sont celles de rapport avec la population locale. Le site du Mont-Saint-Michel a cette particularité que les acteurs rappellent d'ailleurs d'un site de pèlerinage et donc sa fréquentation fait partie de son identité aussi.
Ici au Mont-Saint-Michel, est-ce qu'il y a des régulations qui sont mises en place ?
On parlait d'incitation au début et qu'il n'y avait pas forcément de régulation.
On fait de la régulation, on a plein d'outils de régulation. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc de l'incitation, de la communication, de l'information auprès des ambassadeurs, enfin les relais. En fait, je parlais des hébergeurs tout à l'heure qui, tout autour de la baie, sont capables de donner les bons tuyaux à leurs clients pour qu'ils profitent pleinement au meilleur moment du Mont-Saint-Michel. Après, quand on est submergé par des vagues ponctuelles, pendant les 10 à 15 journées que j'ai évoquées tout à l'heure, là, on a créé, nous, ça fait 2 ans, un calendrier d'idées jours rouges. Et là, entre 10 et 15 heures, on n'accepte pas les autocars, de manière à ne pas créer des effets de masse avec des groupes qui arrivent. Alors ça contrarie plein de monde, les tour opérateurs, parfois les guides aussi, il faut le dire, qui avaient prévu d'accueillir un groupe à tel moment, même s'ils ne sont pas forcément très enthousiastes de voir un groupe de 50 personnes arriver au milieu d'une foule qui est déjà assez dense, et Kevin l'a rappelé tout à l'heure. Mais on a des effets de régulation, on a des navettes qui relient les parkings jusqu'au Mont-Saint-Michel. Il suffit de limiter le nombre de navettes au départ et de renvoyer, à partir de 10 ou 11 heures, des navettes à vide au niveau du village pour commencer à évacuer les rues un peu exiguës de l'îlot. Rien que ça joue à un effet de déconcentration du flux. Après, l'heure de pointe, c'est midi, on sait que ça va être compliqué, entre 12 et 13 heures. Entre les gens qui continuent d'arriver, ceux qui ne sont pas encore sortis, et tout le monde a envie de déjeuner au même moment, alors soit dans les restaurants, en place assise, mais de plus en plus sur les boutiques de vente à emporter, et les files d'attente ont tendance à déborder et à embouteiller un petit peu la rue. Bon voilà, ce sont des pratiques de restauration qui se développent, adaptées aussi à l'évolution des budgets des ménages. Donc on est contraint de gérer tout ça aussi, mais on a ces effets de régulation. Et on oriente le flux pour ceux qui ne vont visiter l'abbaye que vers l'entrée dite secondaire du Mont-Saint-Michel, l'entrée des Faniles qui part là sur la gauche, que spontanément, seuls 10% des visiteurs empruntent. Et on arrive à réguler à l'intérieur de l'îlot rocheux, même si une fois de plus, il n'y a que la rue principale et cette rue des Faniles, donc il faut faire avec ce qu'on a. On arrive à orienter quasiment à 50-50 le flux entre les deux entrées. On essaye de limiter au maximum les fermetures complètes du village. On fait des déviations, on reroute le flux vers l'entrée secondaire, mais c'est extrêmement rare. Cette année jusqu'à maintenant, en tout cas 2026, on n'a pas eu d'interruption complète de circulation à l'intérieur du village. Alors on veille, et votre interlocuteur l'a dit, on veille évidemment au confort, mais bien entendu aussi à la sécurité des publics. Donc on a aussi des équipes qui tournent. Là, pendant les canicules, on avait des renforts avec un poste de secouriste en plus. Sinon, on a les pompiers en permanence, enfin voilà, qui sont sur le site. Donc on fait quand même attention à réguler du mieux possible les flux.
Je vais compléter sur une partie plus baie. parce que nous, on a de l'espace, mais il y a quand même un goulot d'étranglement qui est quand même entre Tomblaine, le rocher dont je parlais tout à l'heure, et le Mont-Saint-Michel, où là, quand on est sur des gros week-ends, on peut avoir un flux continu en fait, entre les deux rochers de marcheurs. Donc, c'est, à mon sens, pas forcément ce qu'on recherche quand on fait une sortie nature. Mais c'est lié au flux global. Nous, il y a l'aspect du nombre de personnes par groupe qui est un levier pour nous. Alors, on est autorisé à prendre 60 personnes. C'est la taille d'un bus. Voilà. Mais la plupart d'entre nous ont des jauges intermédiaires. Moi, j'ai une jauge à 25. En général, je crois que la plus petite, ça va être 20. Il doit y avoir deux guides qui prennent 20 personnes maximum. C'est ça que ça veut dire, hein, la jauge. Et après, on est à 35, 40. Alors ça, c'est chaque guide hein, qui gère sa jauge. Donc, même en termes de baies, on a aussi des leviers pour qu'autour du mont, parce que des fois, on est quand même 60, plus de 60. Alors, je crois que c'est 63, mais bon, j'ai peut-être pas le chiffre exact, mais on est dans ces eaux-là. Donc, il peut y avoir quand même beaucoup de groupes vraiment au pied du mont. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les balades, il y a des balades grandes traversées, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que on a de plus en plus de balades de 1 et 2 heures. D'ailleurs, la majeure partie des gens qui vont dans la baie aujourd'hui n'y vont pas en grande traversée, ils vont en 1 heure, 2 heures. Donc ça, moi, je pense pas que ce soit rendre hommage à notre métier, qui est là pour recréer ce que faisaient les pèlerins, hein, c'est-à-dire traverser la baie pour la rédemption de leur âme. Mais aujourd'hui, on peut avoir autour du mont quand même beaucoup, beaucoup de groupes. Alors selon la configuration, si on a les fleuves pas très loin du mont, on peut vite être tous les uns sur les autres. Donc on a ce levier-là sur le nombre de personnes qu'on va prendre par groupe. Donc selon les guides, ça varie. Donc après, à chacun de décider dans quel groupe il veut aller. Sur la question, il parlait de sécurité, là, la personne. Il y a aussi cet aspect-là. C'est que un des aspects du mont, quand il y a beaucoup de monde, c'est que les gens vont se balader autour. Et je comprends, c'est très joli. Sauf que ils n'ont pas forcément de guide, alors ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas plus que ça, à partir du moment où ils ont un niveau d'information suffisant. Et le niveau d'information suffisant minimum, c'est de savoir quand arrive la mer autour du mont. Parce que là, ce qu'on observe, c'est quand même beaucoup de gens qui se mettent en danger. Les gens n'ont pas forcément conscience de la vitesse à laquelle va la mer. Alors, on a l'histoire du cheval au galop, c'est pas vrai, mais ça va quand même très vite. Et ce qui est important de savoir, c'est que même si on a 200-300 mètres du mont, quand on ne connaît pas le terrain, on peut se mettre dans une zone où on va se faire encercler. La plupart des gens n'ont pas les compétences pour analyser le terrain, forcément, je veux pas que tout le monde les ait, mais on voit qu'il y a quand même un sujet là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il y a des panneaux qui sont en cours, une information qui va être développée là-dessus pour savoir chaque jour quand est-ce qu'il faut revenir obligatoirement sur le grand banc de sable dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a un problème de sécurité là-dessus, parce que c'est vrai que quand on est sur le mont et qu'il y a beaucoup de monde, allez voir un peu ce qui se passe autour du mont, surtout quand il y a plein de groupes, on a vraiment l'impression d'être en sécurité. Sauf que des fois, nous, on sait ce qu'on fait avec la mer, les gens, pas forcément, quoi. Et en plus, on a une très mauvaise notion des distances au mont. Tomblaine, ça paraît vraiment pas loin. Il y a quand même 2,5 km entre les deux rochers, ça fait 5 km aller-retour, des fleuves à traverser, des sols qui sont pas forcément hyper marchands. Donc c'est assez facile de se dire, il y a plein de monde, tiens, on va aller sur le rocher en face. Si on n'a pas l'information de l'horaire de marée haute, ça c'est une information, mais ce qu'il faut savoir c'est que la mer arrive avant la marée haute hein, au pied du mont, vu que c'est le point bas. Si on n'a pas cette information-là, on va vite se faire enfermer. Et nous, en tant que guide, et d'ailleurs les collègues qui font beaucoup de tours autour du mont le font tout le temps, parce qu'ils proposent des sorties où on observe la marée montante, parce que on peut voir les phoques, il y a beaucoup de choses à observer. Déjà rien que le phénomène de marée montante, c'est assez incroyable. On a récupéré un rôle de vigie en fait on passe, enfin en tout cas mes collègues qui sont autour du monde passent beaucoup de temps à dire aux gens vite faut rentrer machin ou alors à faire des déclenchements. Aujourd'hui on a une VHF obligatoire, c'est exactement pour ça, c'est pour faire des déclenchements quand on peut pas aller prévenir une personne ou aller la chercher parce qu'on va mettre notre groupe en danger. Notre principal souci à la base c'est notre groupe. Après on aide forcément les gens qui sont en détresse, mais dans une certaine mesure. Et donc on va déclencher. Donc là, il y a un niveau d'information en termes de sécurité, et ça c'est lié aussi, je pense, à la fréquentation globale du mont et au nombre de gens, et aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont imprudents dans la nature, parce qu'on a plus rapport à la nature, on a l'impression d'être tout puissant, on est plus de 50% de citadins, on ne voit pas le danger. Je parle avec beaucoup avec des gens qui vivent à la montagne, me racontent les mêmes anecdotes hein, sur des gens qui font vraiment n'importe quoi. Donc il y a quand même des dangers autour du mont. Il y a la sécurité sur le mont, c'est sûr, mais autour du mont, finalement, c'est très facile de se mettre en danger. Et pas forcément pour les sables mouvants, mais pour la marée. C'est ça vraiment le principal danger.
On parle aussi de tourisme bas carbone. Ça implique de choisir un mode de transport qui est moins nocif pour le climat, pour ses voyages. Et depuis que le Mont-Saint-Michel a retrouvé son caractère insulaire, l'approche des visiteurs, elle a été complètement repensée. On peut venir à vélo, comme je voyais tout à l'heure. On peut venir à pied, via le pont Passerelle, ou aussi avec les navettes gratuites. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Mont-Saint-Michel, il a choisi en fait de privilégier les mobilités qui sont dites douces?
On ne peut que les encourager. Après, il y a encore du chemin. Hein. Totalise 150 000 vélos, je crois, par an sur le site. Donc ça fait à peu près quoi, 5% des visiteurs viennent à vélo. Il y a 60 000 personnes qui viennent par le train chaque année, Paris-Le Mont-Saint-Michel. Donc ça fait encore 2%. Voilà, 93% des gens viennent avec leur voiture. Donc, vous voyez, la marge de progression, elle est encore importante. Après, nous, tout ce qu'on plaide, c'est effectivement la capacité à mieux accueillir les cyclistes, développer les équipements pour les vélos. On vient de réaménager l'entrée Est, on vient de mettre des bornes de recharge pour les vélos, assistance électrique. On met des totems de stations de réparation de vélos, on a un service de consigne au centre d'information. Enfin voilà, on essaye de chouchouter un peu les cyclistes. Et puis les passagers qui viennent en train, on travaille aussi sur... dans le plan de gestion, il y a des travaux sur la réhabilitation de liaisons autour de la baie entre Granville et Dol de Bretagne, peut-être même Cancale, Saint-Malo, pour voir si, au travers des lignes ferroviaires qui existent encore, on ne peut pas réhabiliter soit des trains, soit des bus. Et puis on a tout autour de la baie, progressivement, des itinéraires piétons qui existent depuis longtemps, hein, GR223 côté normand et GR34 côté breton. Et de plus en plus de véloroutes cyclables. Il y a 4 véloroutes qui convergent vers le Mont-Saint-Michel. Donc forcément, même les voyageurs au long cours qui arrivent de Paris, Roscoff, Dunkerque, Nantes, ou les plages débarquement, vont passer ou vont voir comme destination finale le Mont-Saint-Michel. On travaille avec les SNCF sur des trains qui peuvent ramener les vélos au point de départ. Voilà, donc on met en place des choses. On va rentrer dans le dispositif porté par la région Normandie, tarif bas carbone. Donc pour récompenser, enfin en attribuant finalement des réductions sur les droits d'entrée pour les prestations, soit de visite nature, soit d'accès à l'abbaye, pour les gens qui peuvent attester qu'ils sont venus soit à vélo, soit en train, soit en bus. Voilà. Mais ce ne sont que des incitations. Il y a encore beaucoup de chemin.
Sur les voies cyclables, on voit que ça se développe tout autour de la baie. Hein. On peut maintenant facilement... Alors, il y avait les GR dont tu parlais à l'instant. Maintenant, effectivement, on peut faire quasiment le tour sur des voies sécurisées pour aller du nord au sud, au Mont-Saint-Michel, comme ça, en vélo. Donc, ça, c'est pas mal. C'est même bien. En fait, on peut maîtriser ce qu'il y a sur le mont et et ce qu'on fait dans la baie, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un contexte global. Par exemple, les déplacements, la mobilité dans la Manche, bon, c'est pas foufou en termes de transport encore. Il y a des choses qui existent, mais c'est très peu, très, très mal desservi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi, ne serait-ce que pour les habitants. Hein, parce que là, on parle de tourisme, mais la notion de tourisme durable, elle inclut aussi que les habitants puissent vivre bien. Je pense qu'on prend beaucoup notre voiture. Là, on a traversé des épisodes de canicule, bon, on sait à peu près à quoi c'est dû, alors pas que à nos voitures individuelles, mais bon, ici, on est quand même vite en campagne, sans voiture, on ne fait pas grand-chose, et on n'a pas de réseau vraiment de transport qui soit digne de ce nom. Le train, il n'y a pas non plus énorme, on peut aller à Caen et à Rennes, mais bon, il faut aimer prendre son temps. Après, je ne demande pas des lignes TGV, hein, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes de train, il n'y a pas beaucoup de lignes de bus. Elles ont le mérite d'exister, c'est sûr, mais il y a du gros travail à faire de ce côté-là. Et après, c'est là où on arrive à la limite du côté durable et, à mon sens, au côté masse, qui fait que ça ne peut pas être durable globalement. C'est parce que, on a des parkings qui... je ne sais pas combien il y a de place sur les parkings, mais...
4500
ouais. Il y a des jours où ça va être complètement rempli. Les gens viennent en voiture jusqu'au Mont. Alors après, ils vont prendre les navettes et tout. Ça, c'est ce qu'on peut maîtriser. Mais après, dans le contexte global, on est un lieu qui attire 2,5 millions, 3 millions de personnes. Et ces gens-là, ils viennent en avion pour les étrangers beaucoup. Et après, ils prennent une voiture. Après, il y a des bus. Enfin, en termes d'impact carbone, je pense que si on fait le bilan carbone du Mont, mais ça, c'est normal. Hein, c'est lié à la population, au grand nombre de personnes qui viennent, voilà. Donc là, effectivement, sur ce qu'on peut maîtriser, il y a des choses qui sont faites. Après, c'est un contexte global et c'est aussi le fonctionnement global de notre économie, j'ai envie de dire, qui est pas durable. Donc le tourisme n'est qu'une image de ça, en fait.
J'ai oublié un point important. Depuis 2022, nos navettes qui fonctionnaient au gasoil sont passées au biocarburant. Donc on émet déjà un peu moins de particules fines et de choses polluantes. Bon, c'est pas la panacée, hein, mais on travaille à l'électrification des navettes, ce qui n'était pas possible techniquement. On n'était pas en 2012 en capacité de produire tout de suite des navettes électriques. En 2026, si. C'est encore des investissements extrêmement conséquents. Donc on est en train d'étudier la meilleure solution. Mais c'est des budgets d'investissement colossaux de plusieurs millions d'euros. Et puis je rebondis aussi sur cette évolution du train Paris-Le Mont-Saint-Michel. Entre 2020, le chiffre de 60 000, c'est le chiffre de 2025. En 2024, on était à 40 000. Donc ça veut dire qu'il y a une progression quand même conséquente, 50% sur une seule année. On espère qu'elle va se poursuivre. Et ce train, il est surtout fréquenté par des populations qui viennent d'assez loin, les clientèles asiatiques en particulier, qui n'ont pas envie de s'embêter à chercher leur voie sur la route, etc. Ils se disent « ouais, il y a un train direct, super ». Tant mieux, parce que de toute façon, moi je pars du principe que la France reste la première destination touristique mondiale. Et donc on n'empêchera pas les Japonais, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, enfin peu importe, tous les gens qui viennent de l'autre bout du monde, de venir en vacances en France, en séjour en France. L'objectif, c'est que leurs pratiques sur le territoire national soient les plus vertueuses possibles en termes d'émissions carbone, et que la durée des séjours soit les plus longues possibles pour éviter... de faire des sauts de puce et de faire le tour d'Europe en 6 jours, quoi. Ça, c'est un petit peu les modèles sur lesquels les tour opérateurs travaillaient jusqu'à présent et qu'on essaye de faire évoluer d'une manière un peu plus vertueuse.
Donc, le tourisme responsable, ça implique aussi de sensibiliser les touristes aux enjeux écologiques spécifiques du territoire. On parle alors d'écotourisme en choisissant de mettre la nature au cœur du voyage, en l'observant, en la découvrant, voire en apprenant comment elle fonctionne dans des zones naturelles ou par des activités écologiques. On va écouter un dernier extrait. Non, on ne va pas écouter un dernier extrait. Mais aussi, ces dernières années, le tourisme il s'est davantage déporté sur la baie, comme avec vous, Kevin, en tant que guide. Et est-ce que c'est aussi le but d'une traversée de sensibiliser et sur les dangers et aussi sur sensibiliser sur l'écologie et l'éco-responsabilité qu'on peut avoir dans la baie?
Évidemment, ça fait partie, c'est notre métier en fait. Nous, on a un métier qui a une consonance historique parce qu'on recrée ce que faisaient les pèlerins en un sens, mais on est tous là pour sensibiliser nos clients à l'environnement, à leur montrer ce qu'il y a à voir le jour où on fait la traversée, à évoquer comment a évolué cet environnement au cours de l'histoire, alors faire comprendre en fait l'écosystème qui est la baie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je m'attache à faire au maximum. Après, il y a le côté historique qui fait partie de notre métier, mais la sensibilisation... Je pense que si c'était que faire du tourisme, je ne ferais pas ce métier, en fait. Et s'il n'y avait pas le côté sensibilisation, je le ferais pas.
Et Justine le disait tout de suite, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la baie. Est-ce que aussi ça sous-entend une prise de conscience écologique ou un attrait pour la nature davantage par les touristes? Est-ce que les touristes posent plus de questions? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un intérêt différent? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, vous, pendant vos activités?
J'aimerais vous répondre oui. Tout le monde s'intéresse à ça. Et non, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent uniquement au sable mouvant. Là, je parlais, je suis venu avec un collègue guide et il me parlait avec l'office du tourisme au téléphone il n'y a pas très longtemps. Maintenant, les gens demandent des tours d'une heure et c'est en gros, c'est, tu prends le groupe, tu marches, tu fais un sable mouvant, tu reviens, quoi. Donc, j'aimerais. Il y a une partie de la population, oui, ceux qui s'engagent dans la grande traversée, qui sont là pour comprendre, qui sont là pour découvrir le patrimoine, qui sont là pour tout ça. Après, on a quand même. Un phénomène de consommation de la baie, et en plus on a voilà, on a des vidéos maintenant qui tournent un peu partout sur les sables mouvants. Alors oui, c'est sables mouvants, c'est impressionnant, c'est sympa. En plus, quand on connaît, bah voilà, c'est sûr que c'est un peu le côté un peu extraordinaire de la baie. Mais il y en a bien d'autres en fait qui sont pas forcément aussi spectaculaires, mais je sais pas, rien que de traverser un fleuve pas très tard après marée quand il y a un peu de débit, bah déjà ça c'est assez extraordinaire de voir certains oiseaux voler, c'est extraordinaire de voir cette vaste étendue, c'est extraordinaire de voir la marée monter, c'est extraordinaire. Enfin, il faut s'imprégner de ce lieu. Et oui, il y a une partie des gens qui sont sensibilisés et qui veulent avoir ce discours-là et qui s'y intéressent. Après, quand je vois la tendance par rapport aux sorties qu'on propose, enfin, en tout cas aux sorties qui sont demandées, mais qui du coup sont proposées par la suite, bah, c'est pas vraiment ce que j'observe. Hein. Comme je vous disais, il y a une majeure partie des gens qui font des tours autour du monde parce qu'ils veulent tout faire dans une journée. Ils veulent cocher toutes les cases et avoir leurs photos dans les sables mouvants. Et je pense qu'on perd quand même un peu du sel de la traversée. Alors après, ces tours-là, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas faire la grande traversée, et c'est très bien qu'ils existent. Mais il n'y a pas 60% de la population française qui ne peut pas faire 15 km dans une journée, à vitesse réduite.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Moi, j'ai été longtemps touriste au Mont-Saint-Michel avant de venir y travailler. Ma première traversée de la baie, c'était en 2013. Ça devait être au moins ma 4e ou 5e visite au Mont. C'était la première fois que je traversais. En fait, simplement, je voudrais dire que tant qu'on n'a pas fait une traversée de la baie, on n'a pas compris le Mont-Saint-Michel. Voilà, tout simplement. En fait, pour comprendre le site, son intégration dans le paysage, il faut faire une traversée de la baie. Et après, Kevin l'a rappelé, il y a plus de 60 guides. Ils ont tous leur personnalité, leur centre d'intérêt, leur tempérament, leurs compétences. Ils sont tous sympas, ça c'est bien. Mais par contre, ils sont capables d'appuyer certains sur le cycle des marées, d'autres sur la faune, etc. Enfin, ils ont tous leurs particularités, d'autres les contes et légendes, d'autres peut-être plus sur des connotations, motivations religieuses et la vie religieuse du site. Et c'est très bien, et c'est super. Et puis on peut faire des traversées dans la journée, tôt le matin, on peut faire des traversées de nuit, et on peut partir de Genet, de Vince, du Mont-Saint-Michel, de la Roche-Torin. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas une traversée de baie, il y en a des centaines différentes, avec des gens différents, avec des approches différentes. Et donc, il faut l'intégrer comme un moyen de découvrir le Mont-Saint-Michel et sa baie dans son ensemble. Alors, on apprendra forcément des choses sur le milieu naturel, mais on va apprendre plein de choses autour de ça aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une expérience de visite qui est irremplaçable par rapport au simple fait d'aller se balader dans la rue commerçante.
Oui, je pense que le lien entre le mont et la baie il est plus que millénaire. Le mont ne serait pas ce qu'il est sans la baie et sans les pèlerinages. En fait, les pèlerins traversaient la baie, ils arrivaient au mont, et une grande partie des constructions qui ont été faites ont été faites sous l'impulsion des pèlerins, que ce soit le village pour le côté commerçant, accueil, et puis après les édifices religieux de plus en plus importants, parce qu'il y a de plus en plus de pèlerins, qu'il y avait de l'argent qui rentrait via les pèlerins. Enfin voilà, tout ça est intimement lié. Donc je suis entièrement d'accord avec le fait que bah, pour comprendre le mont, la baie, c'est aussi une bonne porte d'entrée. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a plein de traversées différentes à faire. Et que même si vous revenez avec le même guide l'année d'après, pas même météo, pas même marée, pas même groupe, pas même type de sortie, mais enfin, même sur le même type de sortie, vous vivez quelque chose de différent, en fait. C'est ce qui fait l'attrait de mon métier. Mais moi, j'ai des gens, et puis je pense que tous mes collègues en ont, des gens qui reviennent chaque année, et parce qu'à chaque fois, c'est une expérience différente. Selon le moment où vous y allez, selon la météo du moment, selon le type de sortie, vous allez vivre quelque chose de différent. Donc venez.
Eh ben merci beaucoup à vous deux, Hervé Biergeon et Kevin Sionneau, pour votre présence. Merci au Centre d'information touristique du Mont-Saint-Michel pour l'accueil. Merci à Émile à la technique. Quant à nous, on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux échanges autour de la transition écologique. Bonne journée à l'écoute de Radio Phoenix.
Parlons transition. une heure d'échange sur les défis écologiques. Avec le soutien de la région Normandie.